Salut mes petits vampires et bienvenue dans The Marvel Initiative, le podcast où on vous parle de tous les films Marvel, même ceux avec Norman Reedus qui surjoue.
Ah oui, c'est vrai. Et la VF est horrible. J'ai vu en VOVF, Norman Reedus, il est mauvais dans les deux.
Tu l'as vu en VOVF en même temps ?
Non, mais vu que je l'ai vu plusieurs fois cette semaine, donc je suis prêt.
Je suis Sofiane, avec moi on a Max Ferratu.
Yes, salut à tous.
Oh, il est beau.
Zolt Van Helsing.
Oh là là, pas mal.
Et Judith Cullen.
Putain, j'ai la pire ref, vas-y.
Ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure.
C'est tout ce qui me restait, là. Cette semaine, on va vous parler de Blade 2, de Guillermo del Toro. Avant de commencer, parlons de del Toro. Est-ce que vous aimez bien Guillermo del Toro ?
C'est dur de pas aimer del Toro.
Moi, je trouve qu'il a trop souvent un totem d'immunité. Moi, je trouve qu'il fait des choses bien et il fait aussi des choses pourries et on le dit pas assez.
Ouais, je suis un peu d'accord avec Judith. Moi, je trouve que c'est un réal très intéressant. Tu sens que c'est un passionné, c'est un mec qui a un univers, qui a des idées. Mais en fait, souvent, j'ai l'impression de rester un peu à la porte de ses films où les gens qui l'aiment et qui en parlent, t'en parlent comme si c'était la septième merveille du monde. Mais moi, émotionnellement, à chaque fois, je suis quand même pas toujours à donf, quoi. Donc, à part le labyrinthe de Pan, que je trouve vraiment extraordinaire, tous les autres. Ouais, j'ai toujours une petite réserve, mine de rien.
Les Hellboy, ils sont cool quand même.
C'est cool, mais en fait, ça fait partie de ces réals. J'ai l'impression qu'ils mettent. Ils sont plus intéressants à déconstruire et à essayer de comprendre tout ce qu'ils ont voulu mettre dans leur film que le film en soi, quoi. Et là, Blade 2, c'est un exemple parfait. Quand tu écoutes le commentaire audio du gars, il te parle de tellement de trucs qui sont en finale à peine dans le film que je trouve qu'il y a un côté limite frustrant, mais au-delà de ça, c'est quand même très très loin d'être un tâchon, et surtout c'est un des mecs qui a le plus de personnalité à Hollywood aujourd'hui, donc c'est pas rien, quoi.
Ce que j'aime bien chez Del Toro, justement, c'est qu'il adore le genre, et il est passionné par plein de trucs autour de ça, et qu'il essaye de le rendre toujours accessible, même si des fois il y a des parties prises d'auteur qui sont plus dark ou plus sombres dans les thèmes, mais ça reste toujours des trucs accessibles au plus grand public pour des trucs qui ne le sont pas de base, et j'aime bien la démarche, moi, en général.
Ouais, c'est vrai que moi j'ai un peu de mal, moi personnellement. J'ai jamais trop accroché. C'est vrai que le labyrinthe de Pan, par exemple, c'est son chef-d'œuvre, hein, clairement. Mais par exemple, là, The Shape of Water, moi j'étais pas forcément. J'ai pas été pris par le film, quoi.
Ah ouais, t'as pas kiffé la petite sirène mélangée à E.T., ouais.
C'est ça. Ah non, moi j'ai vraiment détesté ce film et ça m'a énervé toutes les récompenses qui s'est pris de partout et tout l'encensement. Surtout, en plus, l'Oscar de la mise en scène et du meilleur film, je crois. Alors que je trouve qu'il est bourré d'erreurs de réalisation et de narration, j'ai trouvé ça révoltant.
Ah, à ce point-là, ce serait intéressant que tu en parles un jour.
Je pense qu'ils lui ont donné pour l'ensemble de sa carrière. C'est souvent ça. Comme ça. C'est comme quand tu réfléchis que Scorsese, son seul Oscar, il l'a eu pour The Departed, quoi. Enfin, tu te dis, quelquefois, c'est un peu comme ça. Ça se passe genre.
Ouais.
On va prendre ce film qui est accessible à tout le monde et on va dire, bon, allez, Del Toro, on te le donne ton Oscar. Et voilà.
Ouais. Mais heureusement que c'était pas pour Blade 2 quand même.
Non, ça, ouais, non, ça, il y avait pas de risque. Mais non, après, je trouve que ça reste un mec qui dégage une espèce d'humanité et de passion qui est débordante, quoi.
Il a l'air très sympa comme gars.
Ouais, voilà, ça, je peux pas lui enlever. Mais c'est vrai que ces films qu'il a écrits lui-même, donc Les Chines du Diable, Labyrinthe de Pan et La Forme de l'eau, je les trouve toujours plus intéressants que ceux qu'il a réalisés un peu des commandes, enfin en tout cas écrits par d'autres, donc Pacific Rim que j'aime bien, hein. Mais tu sens que voilà, que lui il essaie d'en faire un truc cool, mais que le scénario il est quand même pas toujours au niveau et il relève pas toujours le niveau du scénar juste par sa réal, quoi.
J'ai pas accroché à Pacific Rim, quoi, ça m'a rien fait non plus. C'est bizarre parce que moi j'aime bien les kaiju, les trucs comme ça. Enfin, j'ai adoré le dernier Godzilla par exemple. Donc, normalement, je devrais bien aimer Pacific Rim, mais je sais pas, ça m'a rien fait, quoi.
Ouais, moi j'ai mis du temps à l'apprécier le dernier Pacific Rim, Pacific Rim tout court. Et en plus, comme je te dis, Pacific Rim, il y a un côté où autant en scène d'action, je trouve que c'est un mec qui arrive à faire des films. En fait, la force de Del Toro aussi, c'est que c'est un mec qui arrive à faire des films qui ont un très très beau cachet, qui paraissent riches et chers, alors finalement qui ne sont pas des films hors de prix, quoi. Et c'est le cas de La Forme de l'eau, qui est un film qui coûte, je crois, 19 millions de dollars, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose. C'est un peu le cas de Blade 2, qui coûte pas tant que ça par rapport à...
55, à peu près la même chose que le premier, 10 millions
ouais,
plus que le premier.
Et je trouve qu'il a l'air d'être quand même beaucoup plus riche que le premier. Enfin, tu vois, il a un cachet qui fait un peu plus, je trouve, un peu plus riche. Et même Pacific Rim, c'est quand même un gros blockbuster, mais ça a beaucoup plus de gueule que beaucoup d'autres blockbusters à l'heure actuelle, parce que les effets spéciaux sont très bien faits. Il s'est très bien combiné effets spéciaux et maquettes. Donc il a beaucoup de talent, hein. C'est un mec très appliqué qui connaît très bien le cinéma et qui connaît très bien les monstres. Mais après, je peux comprendre qu'on ne rentre pas toujours dans son univers et que par moments, il a un peu des limitations de narration qui, moi, me dérangent un peu.
Bah, et puis en plus, je trouve que c'est un peu le problème souvent des réals un peu bons élèves, tu vois, des passionnés qui s'y connaissent vachement, qui connaissent énormément de films, qui veulent faire plein de références. Souvent, ça fait co copie de premier de la classe et l'émotion est un peu laissée derrière.
Ouais, bah c'est exactement ça, ouais, je suis d'accord avec toi en fait. C'est ça parce que franchement, Pacific Rim, c'est un délire hein, quand tu parles des. Genre quand tu analyses les couleurs dans Pacific Rim, il y a toujours une symbolique hyper importante et tout. Mais quand tu vois le film, en fait, moi, ça, ça m'impacte pas quoi. C'est-à-dire que si je vois pas une vidéo essai sur YouTube qui me dit, regardez, le violet, ça représente tel personnage qui en fait symbolique l'espoir, machin, pouet, pouet. Dans le film, en fait, je vois juste des persos un peu stéréotypés, tu vois, qui vivent une espèce de situation pas forcément ultra bien menée quoi. Mais.
Bah oui. Puis alors pour moi, enfin pour le coup, si un film, si t'as besoin, je trouve, hein, si t'as besoin de voir une analyse pour être touché par un film, c'est que le film est raté. Au bout d'un moment, tu peux mettre toute l'intelligence que tu veux derrière. Si t'as pas touché ton public, même au premier niveau de lecture, c'est que t'as raté un truc, t'as raté le plus important en fait.
Ouais, après, il y a toujours une histoire de est-ce que tu es plus ou moins ouvert à la proposition, est-ce que, enfin, tu vois, ça te parle
Oui.
toi. C'est toujours délicat parce qu'il y a des gens qui vont être hermétiques à des trucs ou ils vont pas être impliqués parce que sur le moment-là, ils n'étaient pas réceptifs. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu le défaut que j'ai avec Del Toro, c'est soit c'est un peu par moments nébuleux, ou en tout cas, les intentions sont déguisées derrière des sous-couches. Et en effet, si je vois pas une vidéo qui m'explique des trucs, je capte pas on va dire, la sève du truc. Soit, comme dans La Forme de l'eau, je trouve que tout est ultra évident et j'ai l'impression que tout est dans ma gueule. Toutes ces intentions sont
Ouais.
là, ah, regardez, c'est comme ça. Ah, ben là, regardez, je veux évoquer ça avec ci et ça. Et bon, il y a un moment, je me dis, bah, c'est soit l'un, soit l'autre et c'est pas forcément le mec que j'aime le plus. Parmi les trois Mexicains qui forment la triade, la trinité des réalisateurs mexicains, là, Del Toro, Cuarón et Iñárritu, c'est
Ouais.
potentiellement celui que j'apprécie pas forcément le plus dans le tas.
Oh, celui que j'aime le moins, c'est Iñárritu de
Oui, non,
très
en fait,
loin.
c'est moi aussi. Maintenant que
Ouais.
j'y pense, là, je repense à ces derniers films et je fais,
Ouais.
oui, non.
Alors, je pense que c'est Iñárritu. Et c'est quoi Cuarón? Cuarón, je connais moins bien, donc tu vois, je peux pas
Bah,
vraiment
Cuarón, c'est
juger.
du très très lourd, hein, pour le coup. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur des trois, mais de loin.
Et d'où ce petit débat sur il me faut une vidéo pour comprendre le film, etc. C'est le genre de débat qu'on a sur mon autre podcast où on parle de David Lynch. C'est le genre de truc qui revient un peu souvent. Il y a les gens qui disent je comprends rien, donc il faut que je regarde quelque chose. Il y a les gens qui disent je comprends tout en le regardant. C'est toujours assez drôle d'avoir les différentes facettes. Et c'est en effet, c'est dommage de se dire il me faut une vidéo qui m'explique tout, parce qu'en plus, pour Lynch, en l'occurrence, c'est souvent faux, puisque Lynch n'explique jamais rien, donc tu peux pas vraiment savoir au final. C'est à toi de te faire ta propre explication. Et ouais, c'est vrai que ce côté il me faut une vidéo pour comprendre, c'est un peu ridicule quand même. Il y a des vidéos de 3 heures qui durent des fois pour t'expliquer un seul film. Genre, ouais, faut arrêter quand même. Hein.
Non, mais après, tu vois, par exemple, je reprends Judith quand elle a fait sa vidéo sur le silence des agneaux. Je pense qu'elle a réussi à vraiment dévoiler un truc sur le film qui était clairement là, mais je pense pas que personne l'avait perçu, ou en tout cas avait réussi à l'expliciter de manière aussi limpide qu'elle. Et donc ta vidéo, elle est salvatrice parce qu'elle nous donne une lecture, on va dire, approfondie d'un film qu'on a tous réussi à apprécier et à je dirais, à voir. Mais toi, c'est, enfin, je veux dire, le film, en effet, il se tient sans cette lecture-là et sans cet approfondissement de cette analyse. Mais à la fois, bah, sans ta vidéo, je suis pas sûr que tu peux percevoir ça de manière aussi claire, quoi. Donc c'est toujours l'histoire des.
Oui, merci beaucoup. Mais en fait, je pense que, enfin, moi, ça, voilà, ça m'intéresse de décortiquer dans le cadre de certains films, dans un certain cadre, ça. Et tant mieux s'il y a des gens que ça intéresse justement d'avoir ces explications-là. Enfin, en tout cas, mon interprétation. Mais je trouve que c'est pas le plus important. En fait, même si tu saurais pas détailler tout ce que ça t'évoque au moment où tu vois le film, quelque part, tu le ressens quand même. Tu vois, si ça te semble vrai au moment où t'as l'explication, c'est que quelque part, au fond de toi, tu l'avais compris, même si tu peux pas mettre les mots dessus. Et c'est ça qui compte.
Ouais, bah,
C'est
je suis
exactement
d'accord avec toi.
comme quand Lana Wachowski a dit que Matrix était en fait une allégorie trans. Et sur le coup, je fais, ah ouais, et en fait, ça l'a toujours été. Bah, tu vois, c'est moi qui
Ouais.
l'ai vu 1 million de fois le film. Je me suis dit, en fait, c'était un peu la pièce manquante, limite, qui me manquait depuis toujours pour encore plus comprendre le film. Et bon, je sais qu'il y a d'autres personnes qui vont dire ouais, c'est n'importe quoi, etc. Mais oui, donc quelquefois, il faut qu'on pousse un peu le spectateur dans la bonne direction. Mais de là, il ne faut pas non plus lui en mettre trop d'explications tout le temps. Comme par exemple les trucs comme Cinema Scenes qui vont te décrire scène par scène ce qui ne va pas dans un film. Voilà, quoi.
Ah ben là, c'est même pire. Là, c'est même, là, ça essaie même pas de comprendre ce que le réal a fait. Donc c'est,
exactement.
Voilà. Je veux dire, c'est encore plus débile. Moi, je me rappelle de celle de Get Out où tu as envie de leur foutre des baffes. Genre, ils comprennent pas. Genre, t'as l'impression qu'en fait, ils redécouvrent le film pour la première fois. Donc, ils vont te faire des phrases en te disant ce personnage agit vraiment bizarrement. Hein. Mauvais point. Bah non, parce qu'en fait, c'est le twist de la fin qui t'explique pourquoi elle agit comme ça. Donc, Bah, tu vois, j'ai envie de dire, vous êtes débile, juste. Mais bon, ça c'est vraiment la chienlit. Ça, pour le coup, le nitpicking, enfin,
affreux. Hein, c'est affreux.
Ouais, je préfère les gens qui suranalysent et qui se décident, enfin, tu vois, de creuser des points de réal, quitte à aller trop loin, que les gens qui restent en surface et qui juste disent, il y a une perche dans le champ, là, il y a un faux raccord, ou là, il y a un truc pas cohérent, alors qu'en fait, c'est cohérent. Ça, c'est vraiment ce que je déteste le plus.
Ouais, et puis voilà, on va pas se moquer de l'analyse, puisque c'est ce qu'on fait. On a fait 83 épisodes maintenant où on fait ça, quoi. Donc,
Non, c'est clair, c'est clair.
Bon, retournons à la production du film. Monsieur Norrington, qui a réalisé le premier, a refusé de revenir. Donc c'est Del Toro qui le remplace. Lui, il avait fait Les Chines du Diable. Vous avez bien aimé Les Chines du Diable ?
Alors, pour le coup, à l'époque, il n'avait pas encore fait Les Chines du Diable. Hein. En fait,
Je croyais qu'il venait juste de sortir de Les Chines du Diable. Ou alors il avait fait Mimic, peut-être.
Ouais. C'est ça, exactement. En fait, il était blacklisté à Hollywood parce que Mimic, ça s'était très mal passé. Il s'était fait piquer son film par Weinstein et il faisait partie des réalisateurs sur la fameuse liste noire. Mais un festival de cinéma à Austin, il a fini par croiser David S. Goyer. Qui pour le coup était donc en train de plancher sur un Blade 2. Alors David S. Goyer, dès qu'on lui a dit est-ce que tu as une idée pour Blade 2, il a tout de suite eu l'idée de dire faut que Blade s'associe avec des vampires. Et donc ils ont eu cette idée de faire un mode Les 12 salopards mais dans l'univers de Blade.
Suicide Squad.
Ouais, un peu, ouais. Non mais c'est ça en plus. Et donc ils sont croisés et David S. Goyer a dit j'aimerais beaucoup que ce soit toi, franchement je sais que t'as un féru de monstre et tout, tu vas gérer. Donc, il lui a donné sa chance à une époque où Hollywood ne voulait plus trop lui donner. Et en fait, ils ont écrit ensemble. Ils se sont mis ensemble à Austin pendant plusieurs semaines pour écrire tous les deux. Et après avoir écrit, Del Toro est allé terminer son film, Les Chines du Diable. Enfin, il est allé tourner son film. Donc, en fait, il y a eu la préparation, le montage du film, le montage financier du film, le tournage de Les Chines du Diable et le tournage de Blade qu'il a quasiment fait dans la foulée. Donc, c'était un peu. Il a quasiment sorti les deux films la même année, je crois, en plus. Donc voilà, c'est un peu le moment où il a joué sur les deux tableaux. Il a réussi deux films plutôt convaincants, à la fois un européen et à la fois un américain. Il s'était bien remis sur selle, Del Toro. Ouais.
Et donc Les Chines du Diable ?
Moi, j'ai pas vu.
Ah, d'accord.
J'aime plutôt bien.
T'aimes bien, Juliette ?
Ouais, plutôt bien. C'est un peu vieux dans mon esprit, je saurais pas dire. Je me rappelle que je suis pas totalement convaincu, peut-être parce qu'il a un côté un peu malsain, mais bon, ça après ça peut être un parti pris, voilà. Mais plutôt j'aime bien celui-là.
Moi, j'avais vu à l'époque de la sortie, ou en tout cas sortie DVD, et je me rappelle qu'il m'avait pas mal marqué. Je sais pas s'il sort aujourd'hui, si ça marcherait autant, quoi.
Il met un peu mal, quoi, je trouve.
Voilà.
C'est pas le film le plus agréable. Ouais.
T'as bien aimé, toi, Max ?
Moi, j'aime bien, mais j'ai mis du temps avant de le regarder dans sa filmo parce que justement, je l'appréhendais un peu et c'est vrai qu'il est quand même assez rude.
Del Toro voulait que le film ait un côté animé, donc japonais. Je ne l'ai pas forcément vu énormément dans le film, à part quand il y a du CGI dégueu, quand il saute sur les murs et ce genre de truc, mais sinon...
Tu parles de Blade ou de...
Oui, de Blade, pardon.
Ah oui, d'accord.
Oui, non, Les Chines du Diable, c'est un animé japonais. Ouais, Blade 2, hein, donc il voulait que ça ait ce côté, c'est ce qu'il disait, quoi. Animé japonais.
Alors, je sais pas si c'est un truc animé, en tout cas, il a surtout fait venir en partie un chorégraphe et acteur qui joue dans le film, qui est de Donnie Yen, qu'on retrouve aussi dans Rogue One, mais surtout dans la saga Ip Man. Et en fait, il a voulu vraiment incorporer ce style, enfin, quelques chorégraphies de combat dignes des meilleurs. Hongkongais. Je ne sais pas si c'est en lien avec le fait de dire un animé, parce que ce n'est pas japonais, rien à voir, mais en tout cas, il a voulu faire un espèce de pont quand même entre l'Asie et l'Amérique dans ce film-là.
Donnie Yen qui joue aussi le rôle de Snowman dans le film.
Ouais, exactement, voilà, qui joue le rôle du mec avec un katana.
Il n'a pas deux katanas même ?
Ah non, je ne crois pas. Non,
je croyais qu'il en avait deux. Donc, c'est écrit par Goyer, mais il y a beaucoup d'idées qui sont signées Wesley Snipes, qui devient de plus important dans la production. Ils sont juste allés le voir et ils ont dit « Tu veux faire un Blade 2 ?» Il a accepté tout de suite. Hein, il n'y a pas eu besoin de négocier ou quoi que ce soit. C'est son rôle préféré. Quoi. Et le méchant, ça devait être Morbius, donc comme on le disait dans l'épisode précédent. Mais Marvel a refusé parce qu'il voulait faire un film Morbius que l'on verra un jour.
Oui, bientôt,
2021
ouais. Ouais, bah, il devait sortir cette année, hein, je crois même, à base.
C'est fin d'année prochaine, je crois, du coup.
Avec notre cher Jared Leto. On fera un épisode dessus, forcément.
Ah bah oui.
Bah oui. Michael Jackson devait avoir un caméo. Il devait jouer un pimp dans la boîte de nuit.
D'accord. Okay.
Voilà. Et avoir une scène où il parle et tout. Hein. Donc,
Et bah, j'ai pas vu du tout ça.
Mais ça s'est pas fait.
Non, ça c'est clair.
Est-ce que tu as du bonus, Zoltan?
Écoute, le bonus, bah, y a pas mal de trucs. Y a quand même vraiment des interviews de comment ils en sont arrivés à faire ce film, qui est assez intéressant. Parce que, honnêtement, le Blu-ray, il est ultra riche. Il y a 4 ou 5 commentaires audio. Il y a 2 commentaires audio de Del Toro, un tout seul avec un qui est les producteurs. Il y a un commentaire audio de David S. Goyer et Wesley Snipes. Il y a un commentaire audio du Chef Up. Hein. Vraiment, il y a énormément de trucs. Il détaille tous les bonus.
Donc, tu l'as vu 6 fois, c'est ça?
Non, mais voilà, je l'ai vu plusieurs fois pour ça. Donc, vraiment, Blu-ray très, très riche à explorer. Il y a, en effet, tout un documentaire qui te raconte comment ils en sont venus à faire ce film. Ce qui est intéressant, c'est que c'est rétroactif. C'est-à-dire qu'il t'en parle, S. Goyer, il t'en parle alors qu'il est en train de sortir Man of Steel. Donc, c'est plutôt rigolo parce qu'il y a un côté où il parle du film 10 ans après, presque. Et donc, il se rend compte, en fait, de l'impact qu'a pu avoir ce film ou à la saga Blade dans les films de super-héros qu'il va faire à l'heure actuelle, quoi. Parce que bah, mine de rien, Man of Steel, ça découle finalement d'une certaine manière de Blade et de Blade 2, quoi. Dans le ton, y a quand même un peu une forme d'héritage, quoi, qui s'ensuit. Et donc, je recommande, si vous avez envie de plonger dans le film, les Blu-ray valent vraiment le coup. Et par contre, Del Toro, j'ai jamais vu un mec. En fait, son rapport au monstre est très particulier. Hein. En fait, c'est quasiment une religion pour lui. C'est-à-dire qu'il considère que les monstres ne sont pas de la fantaisie. Il y croit au premier degré, et donc il connaît, mais alors, genre, tous ses savoirs viennent de livres écrits par des moines en Italie en 1800, qui en fait, parce qu'il y a eu genre une épidémie de vampirisme à une époque en Italie, donc qui s'est vraiment. Ouais. Donc les gars. Non, mais en fait.
Non, mais c'est pas étonnant du tout.
Hein. Et les reptiliens dans tout ça, parce que.
Mais je vous promets, il y a tout un délire où il t'explique pourquoi le mythe du vampire et pourquoi le vampire est considéré comme étant pourquoi on doit planter un pieu dans le vampire pour le tuer. Et ça, en fait, ça vient d'un délire avec donc un truc qui s'appelle c'est que en anglais Schrute, ça veut dire quoi? C'est les choux ou un truc comme ça?
Schrute. Ça me fait penser à Dwight Schrute, moi, quand tu me dis.
Ouais,
ça.
Moi aussi, mais en fait, il y a un mot qui dit dans le commentaire en deux, en VO, qui est, je crois que c'était chou, mais j'ai pas été voir. Ou en deux mots, il y a eu une peste du chou, enfin, un truc à la con en Italie. Et en fait, les cadavres se relevaient, parce qu'en fait, bah, à l'époque, ils pensaient que c'était de la magie, mais en fait, c'est des histoires de. Ils bouffaient du chou et les gaz créés par le chou faisaient bouger le cadavre. Et donc, pour éviter que les cadavres se relèvent, eh ben, il plantait des pieux. Enfin, il les clouait, quoi. Enfin, il les piotait. Ça va venir là. Voilà. Et donc, en fait, c'est là l'origine du truc. Les morts se relèvent. Et ben, pour éviter qu'ils se relèvent, tu les cloues à leur cadavre, à leur cercueil. Et donc, lui, il connaît tout, mais c'est un truc de malade. Le mec, à 15 ans, il lisait des bouquins d'ecclésiastiques italiens des années 1800 pour en apprendre sur les vampires. Et il connaît les vampires de toute la planète. Donc, d'ailleurs, les vampires du film, qui ont une espèce de langue au milieu de la bouche, enfin, qui sort et tout. Ça, en fait, c'est plus proche du mythe du vampire russe. Et après, il te parle des vampires philippins, qui sont des vampires qui bouffent que des fœtus. Enfin, bref. Non, mais le mec.
Ça a l'air sympa aux Philippines.
Ah ouais, non, mais c'est tout un délire. Donc, c'est un gros, gros truc de nerd. Au final, pendant son commentaire audio, il y a des moments où il zappe des séquences entières de description parce qu'il est juste en train de t'expliquer c'est quoi un vampire, en fait. Et c'est passionnant, mais à la fois, c'est flippant tellement le mec est à donf, quoi.
Non, mais les trucs médiévaux, de toute façon, on retrouve toujours des drôles de trucs. C'est comme la fois où tout un village s'est mis à danser et ils sont tous morts.
Ouais, bah, oui. C'est le truc du pain, là. Enfin,
et en France, hein, je crois, d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. C'est la farine de je sais plus quoi, là.
Ouais, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des...
À quoi, il y avait une explication à ça?
Ouais, c'est la farine... Il y a une farine en France qui si elle pourrit un peu, c'est totalement hallucinogène et ça te fait flipper. Et je sais plus le nom de la savoir. Farine, mais non, mais c'est une farine dont on bouffe tous les jours, hein, nous, hein, enfin quasiment. Hein. On fait, je crois que c'est le seigle, c'est le pain de seigle. Si ça passe un peu, il y a une histoire comme ça, bah ça devient ultra hallucinogène, ouais.
Donc pas de chou et pas de pain de seigle. Ok, je note.
Ouais, d'accord. Un truc comme ça.
Donc le budget 55 millions, un petit peu plus que le premier, et au box-office ça a fait 155 millions, un petit peu plus que le premier. Par contre, ça n'a pas été super bien reçu par la critique, quoi. Moins bien que le premier, en tout cas.
Non, bizarrement. Non, ouais.
Bizarrement.
Ouais, moins bien.
Bah, Judith, tu as des trucs à dire.
Ah, c'est ça, attends, je précise, ah, la seigle, en fait, elle est contaminée par des champignons qui, donc, si elle est contaminée, elle devient totalement comme du LSD, quoi.
D'accord.
Voilà. Okay. C'est ce qui arrivait dans ces fameux villages où les gens se mettaient à danser et finissaient par crever de fatigue.
Ok.
C'est con, quand même.
Bon, on passe au film ?
Ouais.
Allons-y. There's a world beyond the one we know, where the powers of darkness fear nothing but
one man. Stop! Blade. Nous sommes en République tchèque, il y a une histoire de don du sang et c'est comme ça c'est un peu logique, c'est comme ça qu'ils trouvent des victimes, les vampires. Et là, il y a un vampire avec une cicatrice qui se met à tuer tout le monde. Donc parlons de lui directement, c'est le méchant du film que je l'ai appelé... Vampire crack addict pendant au moins la moitié du film parce que je savais pas son nom et j'ai toujours pas son nom d'ailleurs. C'est quoi son nom à lui?
C'est Nomak.
Nomak, ouais, c'est ça, d'accord. Exactement.
Nomak.
Ouais.
Qu'est-ce que vous pensez de ce méchant? Puisque vu que c'est lui qu'on voit en premier, donc parlons de lui.
Allez-y, moi j'ai un truc à dire en dernier, donc allez-y. Je veux voir si vous l'avez perçu.
Le teasing. Vas-y, Max.
Ouais, bah moi j'ai bien aimé ce méchant parce que je trouve qu'il y a un retournement qui est sympa autour de lui. Enfin, t'as l'impression qu'il pourrait en final être un des mecs les plus gentils de l'histoire, mais ça trosse quand même sur la fin. Mais moi, je trouve qu'il est un peu surjoué, mais c'est marrant. Enfin, ça va avec l'univers du film, je trouve pas trop mal, avec les maquillages qui sont super stylés. Enfin, moi, ça m'a plu. Il m'a plu.
Vas-y, Zoltan, dis-le ton truc.
Ah bah non, bah Judith d'abord.
Moi, j'ai pas, les méchants vampires du film, j'ai passé mon temps à les confondre les uns avec les autres, donc ils m'ont pas marqué énormément.
Bah, c'est vrai qu'il y a le père là qui ressemble quoi à Gollum, on va dire.
Voldemort.
Ouais, Voldemort un peu.
Ouais, il y a les méchants et les méchants vampires qui ressemblent un peu aussi à Gollum, Voldemort, mais avec un trait sur le menton, là, c'est ça. Mais
oui,
c'est vrai,
voilà,
c'est vrai que c'est un peu resté chauffe, quoi. Ouais. Moi, il m'a pas marqué, ce méchant, hein, je vais pas mentir. C'est pas Ron Perlman, quoi. Voilà.
Ah non, ça c'est sûr.
Non, bah non.
Ça c'est sûr. Ouais. Et donc, le truc que je veux dire, c'est que Guillermo del Toro, lui, l'a abordé comme le héros du film. Donc, pour lui, c'est en fait, pour lui, le film, c'est vraiment l'histoire de ce mec-là. C'est une histoire tragique, une espèce de récit shakespearien avec. Tu vois, le prince déchoué, déchu, qui. Ça fait parce que, encore une fois, quand on parle de moi, c'est vraiment. Là, pour le coup, c'était vraiment.
Mais on l'apprend qu'à la toute fin que c'est le prince déchu.
Bah enfin, voilà, bah, c'est typiquement le délire de Del Toro, c'est qu'il y a des moments, je comprends pas, je trouve que ses intentions, elles ont l'air super cool, mais en fait, dans le film, je les ressens, mais tellement pas, quoi. Et tu vois, il y a plein de moments où il me dit.
Les trois quarts du film, c'est une sorte d'accro au crack qui bouffe tout ce qui passe, quoi. Enfin,
ouais,
ils
sont basés sur le fait que c'est un clodo.
Voilà, voilà. Ouais, okay. Clodo. Voilà, il est habillé avec des vêtements trash,
Ouais, mais justement, pour accentuer ce côté prince déchu, quoi, tu vois, vraiment, le prince qui est tombé tout en bas et qui doit remonter la pente. Tu vois. Mais voilà, donc, et en fait, il y a plein de moments dans le film où lui, il considère que les séquences où il apparaît, c'est lui, le personnage, enfin, c'est vers lui que son empathie va, quoi. Ce qui est cocasse, parce que je trouve qu'on le ressent pas des masses non plus, mais écoute.
Faut pas qu'il le dise à Wesley Snipes. Hein.
Ouais, et tu sens que Wesley Snipes, il l'aime beaucoup, mais à la fois, il est quand même il le trouve un peu limité.
Ouais. Wesley a souvent raison. Pourquoi t'as écouté son
Non, Wesley, j'ai pas réussi à écouter son commentaire audio, j'avais pas le temps. Mais je l'aurais bien écouté, ça m'aurait fait kiffer.
Là, on a une voix off avec Blade, avec une musique bien matrixienne, hein, encore une fois. Là, on est encore bien dans ce... Parce que le film, il pue 2002, hein, quand même, il faut le dire. C'est un film qui pue 2002. On dirait qu'il a été fait dans une usine pour dire qu'il est écrit 2002. Tu sais, c'est des gens dans le futur qui ont fait ce film à la manière d'un... comment ça s'appelle, Stranger Things, tu vois, ou d'un truc comme ça. Ils ont fait un film 2002, quoi. Et on apprend donc que Whistler, en fait, n'est pas mort. Et il a été mordu. Et c'est pour ça qu'il s'est tiré dessus.
Ouais, là, on a du retcon total. Là. Voilà, ouais.
C'est ça dont tu parlais dans
Ah dans oui, bah là, clairement dans le film d'avant, il se tire une balle dans la tête. Enfin, on imagine, on voit le flingue tomber, donc il se suicide pour éviter de devenir un vampire. Et là, il zappe le côté, il se tire une balle et juste, il est devenu un vampire. Et... En plus, c'est chelou parce qu'ils l'ont pris, ils l'ont foutu dans une cuve et ils ne l'ont pas touché pendant 3 ans. Enfin...
Ils sont pris les pieds dans le tapis avec ce personnage. Ils ont voulu le faire revenir, mais ils n'ont pas compris comment. Et au final, c'est incompréhensible.
Ouais.
C'est dommage, il y avait Norman Reedus qui surjouait à côté. Là. Ils auraient pu garder Norman Reedus, quoi.
Ouais, c'est sûr. Mais en plus, ce qui est dommage, c'est que moi, il y a un truc qui m'a fait marrer dans le film et qu'ils abordent jamais. C'est juste, le film se passe où, en fait, quoi. Parce que le premier, on est d'accord que ça se passe aux États-Unis, genre à New York.
Ouais.
Mmh. Et là, c'est genre, en fait, ça se passe genre à Prague, mais c'est, je sais pas s'ils assument le fait que ça se passe à Prague ou s'ils
essaient de faire des Ils ont l'air de faire des allers-retours avec la planque de Blade, quoi, des fois.
Ouais, planque de Blade, elle est toujours aux États-Unis, c'est la même.
Ouais, parce qu'ils trouvent une bague et tout. Mais ouais, clairement, d'accord. Le reste, c'est à Prague, quoi. Enfin, tu vois, genre, il y a un moment, ça fait même pas illusion, quoi. Je me suis pas dit une seule fois, j'étais à New York dans le film.
Et, ça me et puis même les vampires sont tous parlent tous ça, t'as vraiment l'impression que c'est un pays de l'Est, quoi. Il y a pas
Tiens, bah pourtant voilà, on va noyer le poisson, c'est pas où on est.
Un truc que j'ai noté, c'est que là pour le coup les armes de Blade elles tuent vraiment.
Ah mais ça c'est très important. Del Toro, encore une fois, lui dans sa espèce, en fait, comme une fois vu qu'il traite les monstres comme si c'était des vrais trucs, il a vraiment des règles très très strictes sur qu'est-ce qui tue, comment ça marche, tout ça, hein. Donc, vous ne pouvez pas lui faire. Donc, lui, il était un peu comme moi. Moi, j'avoue que le premier, ça m'avait un peu énervé avec ces histoires de balles en argent qui, finalement, ne les faisait pas exploser, tout ça. Donc là, un vampire, quand il meurt et qu'il se prend de l'argent, il crame, quoi. Et après, il a des morts différentes pour chaque type de vampire, un peu, tu vois. Genre les comment ils s'appellent, les méchants vampires ?
Les Reapers.
Voilà, les Reapers, eux, ils explosent. Alors, est-ce que tu as capté la ref, Stéphane, de comment ils meurent ?
De Boulette et Reaper ?
Ouais, non, pas celle-là. Non, la manière dont il meurt. Est-ce que tu as capté la ref parce qu'il a utilisé une ref qu'on connaît tous, qui est assez marquante. Une fois que tu le sais, tu fais genre « Ah putain, mais oui !»
Attends, il meurt ?
Il meurt d'une manière qui rappelle...
Je me rappelle même plus si c'est vraiment différent, qu'il y a beaucoup plus de cendres et de trucs comme ça. Il y a un moment, j'ai noté « Mr. Stark, I don't want to go !»
Ah bah, c'est clairement...
Il y en a un qui est mort.
Donc, ça, c'est la dernière. Ouais. La dernière, elle meurt.
Voilà, la dernière, j'ai noté ça, ouais. Stark,
mais pareil, la dernière, elle meurt de cette manière-là parce qu'elle n'est pas touchée directement par le soleil, mais par genre les rayons lointains, donc elle brûle. Il t'explique tout le délire.
Et donc, c'est quoi ?
Les Reapers, en fait, ils explosent de la même manière que Dr. Manhattan est créé dans Watchmen. Tu sais, avec cette espèce de halo bleu où tu vois le squelette à l'intérieur. Et c'est, pour le coup, c'est vrai que c'est exactement...
Ouais, tu vois le système nerveux et tout le tralala, là. Ouais, ok.
Ouais, bah ça, lui, c'est plus le moment où tu vois le squelette et genre l'espèce de lumière bleue qui en jaillit, quoi.
Ok.
Voilà.
Del Toro, c'est un gros fan de comics, hein, de toute façon.
Ouais. Et c'est pour ça que le gros méchant aussi, là, il a un nom imprononçable, là, le méchant, le grand, le vieux, quoi.
Attends, je l'ai noté.
Je le dessine.
Damoskinos.
Voilà, Damoskinos. Et lui, pour le coup, il crame pas, lui, il se transforme en pierre, parce que c'est un très très vieux vampire. Voilà.
Oui, c'est vrai qu'il se transforme en pierre, lui. Ok. Ouais, c'est bien, il faut lire le lore avant pour tout comprendre. C'est exactement ce que je veux quand je vais voir Blade 2, tu vois. C'est... Ah tiens, des devoirs pour aller voir Blade 2. Ok. Il y a une scène où il y a un presque bullet time, mais c'est toujours pas un bullet time, Zoltan.
Ah bah écoute.
Je l'attends encore, mon bullet time.
Ah bah là, pour le coup, il y est, mais alors,
tellement. Non, là, il y a une balle, mais il n'y a pas de bullet time.
Mais je vois même pas. Alors, est-ce que dans... Juste une question. Est-ce que dans le jeu Max Payne, c'était du bullet time ou pas, Sofiane ? Parce que.
Ah oui, dans le jeu Max Payne, c'est autre chose encore. Quand c'est au jeu vidéo, c'est ralenti avec des balles, oui. Mais le bullet time tel que créé au cinéma. C'est pas forcément des balles. Tu peux aussi, comme j'avais cité l'exemple du coup de pied de Trinity avec la caméra qui tourne autour. Tu vois, ça, c'est un bullet time, ça, par exemple.
Ouais, je pense que ce débat va courir sur cette trilogie parce que.
Il y a des chances, ouais.
Donc, Blade cherche Whistler. Il y a des vampires qui se font des rails de sang. Alors, comment ça fonctionne ? C'est tu prends de la cocaïne et tu mets du sang dessus ?
Ouais, c'est ça. Moi, c'est de la, c'est genre du. En fait, c'est genre comme si tu m'y rajoutais du sang à une préparation de drogue, quoi. Tu vois ?
une préparation de drogue.
Ouais.
On dirait que tu travailles pour les narcos, quoi.
Du sang et des enfêtes, quoi.
Tu travailles pour la DEA.
Ouais.
Au niveau des combats, j'ai noté quand même que c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus chorégraphié. On sent qu'il y a eu Matrix qui est passé par là, encore une fois.
Il y a une grande variété de styles, en plus. Hein.
Ouais, ouais. Et Wesley Snipes, tu sens qu'il fait tout, quoi. Il y a du catch, c'est vrai. À la fin, il sort un coup de catch. Beaucoup plus... On se foutait un peu de la gueule. Enfin, moi, en l'occurrence, je me foutais plutôt de la gueule dans le premier des... des sales coups comme ça. Il y en a beaucoup moins dans celui-là, quoi. Ouais.
Ah, moi, franchement, je trouvais que la première séquence, par exemple, en termes d'action, elle est classe. Et surtout, il y a vraiment un apport assez... Je trouve qu'il a réussi à transposer sans adapter fidèlement le côté comic book, quoi.
Bah, oui, tu
as des poses un peu figées à la fin de chaque action. Enfin, il y a des images qui marquent. Et moi, par exemple, ce plan où il saute par la fenêtre, il tombe par terre, il sort son flingue, il tire, il explose au fond et
il range son flingue. Dans le mouvement, c'est vraiment... Enfin, ça fait des trucs vraiment bien par rapport au casse des comics, parce que c'est sûr que ça rend hommage à ça, quoi. Mais...
Ouais. Ouais, moi, pour le coup, l'action, c'est vraiment un point que j'aime beaucoup dans ce film. Je trouve que c'est assez bien foutu.
Ouais, c'est vraiment plaisant.
Alors, moi, au contraire, c'est un reproche que j'aurais à faire parce que j'ai rien contre les scènes d'action et les scènes de combat. Mais en fait, j'ai trouvé pendant au moins toute la première partie du film, si ce n'est plus, qu'en fait, le scénario ne va que de scène d'action en scène d'action. Et qu'en fait, chaque séquence est prétexte pour qu'elle ait lieu sous forme de scène de combat. Et en fait, au bout d'un moment, c'est pareil, ça m'a un peu sorti, tu vois, parce que. C'est que vas-y, alors séance de coups de poing, puis la scène d'après, on a un nouveau prétexte pour de nouveau se foutre sur la gueule, et j'ai l'impression que c'est que ça tout le temps. Juste, tu changes de décor, quoi.
Ah bah c'est
ça
clair.
Ça rend le film ennuyeux. Hein. Au bout d'un moment, tu te fais chier à force de voir de la baston.
Bah c'est ça.
Il
n'y
a aucun character development, il y a aucun Blade. Enfin, il y a rien qui a changé entre le 1 et le 2. Tu vois, il y a rien qui change à la fin du 2. Whistler, on nous dit qu'il va peut-être se transformer en vampire au début du film. Ils font rien avec tout ça pendant tout le reste du film. Moi, j'ai trouvé quoi, que c'était essentiellement que des scènes d'action cool. Mais en gros, le film a vraiment que ça à offrir, à part quelques petites scènes individuelles par-ci par-là. C'est un peu que un action fest, quoi. C'est vraiment
ben
que
c'est ça.
Ça
mais t'as l'impression de jouer à Street Fighter, en fait. C'est que de la bagarre, juste tu changes de décor.
Ouais, mais après, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup le genre cinématographique dont il s'inspire, qui est le film de commando, quoi. Et c'est vrai que bah, les films de commando, c'est quand même souvent un peu que ça, quoi. Après, là, je suis d'accord que les persos...
fonctionnels et tout ça.
Ouais, les persos sont pas tous assez bien travaillés, tu vois. Il aurait pu avoir un peu plus de matière, et ça, c'est évident, c'est indéfendable dans le film. Surtout l'évolution
de
Blade,
dialogue,
ça.
Un peu, quand même.
Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, au final, il était très agréable à regarder en commentaire audio, parce que les dialogues, tu t'en fous royalement, quoi. Mais par contre, voilà, c'est sûr que c'est un peu un passage obligé de ce type de là où c'est l'action qui va, on va dire, faire avancer l'histoire plutôt que les personnages. Mm. Mais je comprends les limitations de ce type de truc, quoi.
Mais enfin, pour moi, c'était pas suffisamment bien chorégraphié non plus pour que ce soit suffisant pour que ça suffise à soi-même, quoi.
Ouais, après. Bah, c'est sûr que c'est pas sûr. Lui, là, il a voulu chorégraphier les scènes d'action comme des numéros de danse. Donc, il a été très rigoureux sur les axes et vraiment essayé de faire comme si c'était des gens qui dansaient. Donc, je trouve qu'elles sont plutôt pas mal quand même. Tu vois, la scène d'action où ils se battent devant les lumières, elle a quand même un peu de cachet. Il y a la scène d'action où ils se battent dans une église un peu abandonnée sur une poutre, que je trouve plutôt pas mal aussi. Après, c'est sûr que faut aimer ça pour vraiment kiffer le film. Et si ce genre de truc ne te suffisent pas, en effet, il n'y a pas grand-chose d'autre à se foutre sous la dent. Quoi.
Je me suis un peu plus... ennuyé que devant le premier, alors que le premier a un troisième acte qui est un peu affreux.
Le premier
te fait rentrer dans l'univers d'une bonne manière que je sais pas. Le 2, j'ai eu un peu plus de mal, je trouve. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est pas vraiment un film de vampire maintenant. Le premier, encore, on pouvait dire que c'était un film de vampire, mais là on est rentré dans le film de zombies en fait. C'est-à-dire que si tu te fais mordre, tu vas te transformer. Il y en a un qui cache sa morsure. Il y a des hordes de sortes de zombies qui t'attaquent. En gros, les méchants, c'est plus des zombies que des vampires, en fait.
Ouais, c'est vrai. Ouais. Là-dessus, t'as raison. C'est des infectés.
On est vraiment rentré dans le film. Il y a même le mec qui cache sa morsure et qui ensuite se transforme, exactement comme dans tous les films de zombies.
Il y a Norman Reedus en plus. Donc.
Il y a Norman Reedus.
Qui a exactement le même look, la même coiffure.
Ah, c'est le même.
Un peu vieilli.
Non, mais c'est vrai, t'as raison,
lui,
ouais.
Parlons de lui, Norman Reedus, qui joue un stoner, qui écoute du Wu-Tang et qui regarde les Super Nanas. Ça aussi, ça nous met bien dans son époque.
Ah ça, les super nanas, ça m'a fait un petit truc hein, de les voir à l'image quand même. Purée.
Vous aimez bien le personnage de Norman Reedus, le twist autour de, top, hein, de son même. Truc.
Mais non, mais voilà, mais la petite frappe tête à claque, là, moi, ça me fatigue ce genre de personnage.
C'est vrai que c'est un peu relou.
Hyper cliché. Ouais, ouais, après, je veux pas plomber l'ambiance à chaque fois que j'ouvre la bouche.
C'est un forum ouvert, il n'y a pas de problème.
Non, je pense pas que la communauté Blade 2 va t'en vouloir autant que d'autres communautés ont pu nous en vouloir sur Blade 2, t'inquiète pas. Tout va bien, je pense qu'elle est assez soft.
Elle est cool, la communauté Blade 2. Elle est dans un donjon, tranquillou.
Non, mais c'est vrai que t'as raison, en fait, les vampires ont plus du tout... c'est ça qui est cocasse, parce que c'est un fan de vampires, Del Toro. Ouais. Et finalement, il a fait un film où, en fait, il a totalement oublié le côté ce que sont les vampires pour nous, quoi. Il a fait un film de vampires entre vampires, quoi, bah, tu vois.
Genre, je me suis vraiment arrêté, humain, et je fais... c'est vraiment un film de zombies, c'était vraiment...
Ouais, parce que c'est vrai que les vampires, ils bouffent pas un humain, t'as pas du tout ce côté les humains contre les vampires, et il a élu des trucs pour se concentrer sur... Bah, alors, tu fais un film où tu es un vampire tout le long, quoi. Donc c'est vrai que c'est cocasse, mais allez, ça a du bon.
Ce sera marqué sur la boîte du DVD. Ouais, ça a du bon.
C'était dit dans le Marvel Initiative.
Il y a Critique Zoltan en dessous. Blade a un petit flingue préféré qu'il garde dans une jolie boîte. Voilà, j'avais juste envie de le dire. C'est le flingue de Whistler.
Whistler s'est tiré dessus. Ouais.
Donc, il lui donne un cocktail magique qui permet à Whistler de rester en vie et de ne plus avoir la soif.
Et, de devenir un humain, quoi, tout simplement.
Oui, et on nous fait croire,
soleil,
on nous fait croire au tout début du film qu'il y a un moment, peut-être il va redevenir, mais non, il ne se passe rien avec ça.
Ouais, ce que tu disais, ils font planer un doute tout le film et ça tombe complètement à l'eau. Enfin, il n'y a rien qui se passe avec ça. C'est vraiment bizarre.
Il y a une scène avec des ninjas.
Ah, elle est bien. Et ça, en plus, c'est quand même... Alors là, pour le coup, pour parler technique, donc le plan où ils arrivent, c'est des doubleurs numériques. Et je trouve que c'est très, très bien fait pour 2002.
C'est bien fait, hein.
Le plan où ils arrivent. Après, c'est vrai qu'il y a des moments de baston où ils utilisent des doubleurs numériques où ça se voit un peu plus.
Ah, mais c'est en fait, dégueulasse, certaines scènes. Hein.
Ouais, après, on est dans le début de cette technologie-là qui a été vraiment expérimentée. Bah, Blade 2, c'est un des premiers à l'avoir fait avec le Seigneur des Anneaux, mais peut-être pas la communauté.
Il y a l'attaque des clones.
Oui, voilà, il y a l'attaque des clones, mais qui arrive un tout petit peu après, si je ne dis pas de bêtises. Et, Harry Potter 2003, aussi. Ouais. Le premier Harry Potter qui a des séquences avec la séquence où il monte sur le troll et la séquence du balai, où ils ont des doubleurs numériques. Et c'était une nouvelle technologie que dans Blade 2, je trouve que c'est un des réals qui, à l'époque, a réussi à le rendre le plus harmonieux avec le reste, parce que il y en a d'autres qui ont tenté le truc de jour et tout, et ça passait quand même beaucoup moins bien que...
C'est bien maquillé, je trouve.
Ouais, là, je trouve que les transitions fonctionnent. Après, oui, 20 ans après, tu le grilles, hein, mais ça, moi, ça m'a pas choqué en négatif, quoi.
Ah, ça m'a fait penser à celle de Daredevil, moi. Enfin, dans le même genre, quoi.
Bah, c'est la même techno, hein.
Mais c'est pas du niveau de Catwoman non plus, on va pas déconner.
Ils sont très bien dans Catwoman, c'est spécial.
Arrête, je n'en reviens pas que je dois avoir ce débat à chaque fois, alors qu'on parle de Catwoman quand même, merde. Catwoman. Ah, justement, ouais, dans la scène avec les ninjas, donc il y a aussi c'est Blade qui se bat sans sortir son sabre.
Ouais, il se bat
pendant pas mal de temps où t'as l'impression que Wesley Snipes il s'éclate. Et là, je m'amuse trop, quoi. Rien que pour
c'est
ça.
Marrant, ouais, j'aime bien les costumes des ninjas quand même. Ils ont je trouve qu'ils ont une bonne gueule, ils ont un truc. Enfin, en effet, il a voulu en faire des super-héros, quoi, comme si c'était des super-héros, et ils ont un design qui, je trouve, claque pas mal.
Donc, le conseil de vampire veut recruter Blade. Mais sauf qu'on voit pas vraiment le conseil, on voit qu'un seul gars. Hein.
Ouais.
Ouais, cette fois... Le QG, il est sympa, par contre, cela dit. Le QG des vampires.
Ouais, cette espèce de gros building. Alors d'ailleurs, c'est marrant parce que pour y aller, ils prennent donc un hélicoptère. Et ça fait partie des deux séquences du film où en fait, c'est pas Wesley Snipes qui joue Blade, c'est sa doublure. Et pour le coup, c'est des vraies séquences où le mec a des dialogues et tout. Hein, mais ils ont réussi à la faire avec une doublure.
Comment ça se fait? Ah oui, parce que Blade, je crois qu'il avait deux tournages en même temps ou un truc comme
ouais,
ça.
Ouais, il devait y finir et après, en fait, il devait se raser la tête ou je sais pas quoi, enfin faire un truc qui fait qu'il pouvait plus jouer Blade, quoi. Et donc, bah, ils ont utilisé sa doublure pour deux séquences. Et pour le coup, bah, je trouve qu'on ne les voit pas trop. Quoi.
Je ne sais pas griller, j'avoue.
Ça passe plutôt bien. Alors que franchement, Enfin, ouais, le mec, c'est pas lui, quoi. Mais bon.
T'imagines qu'il y a une époque où Wesley Snipes, il faisait 3 films en même temps, quoi.
Ah ouais, c'était une autre époque.
Maintenant, je sais même pas s'il en fait un, quoi.
Ah bah non, je pense qu'il a dû en faire. Bah, il a fait. Moi, le dernier que j'ai, c'est Dolemite is My Name, là. Mmh, mais,
ah oui, il est très bien dedans, en plus. Ouais, ouais, je suis mauvaise langue, je l'aime bien, en plus, Wesley. Excuse-moi, Wesley, je sais que tu nous écoutes.
Oui, bah ça. Il a appris le français en prison.
C'est ce que tout le monde fait en prison. On fait la rencontre de Damos Kinos, donc qui ressemble à Gollum. Il y a une histoire de virus, donc qui apparemment transforme les vampires en mangeurs de vampires accro au crack ouais. Et en Gollum, hein, en fait. Voilà. Les vampires, ils ont un gang, les gentils vampires, parce qu'il y a les méchants vampires et les gentils vampires,
ouais.
Qui ont un gang avec Ron Perlman comme chef raciste. Hein, il fait une remarque raciste dès qu'il arrive.
S'appelle
hein,
Adolf,
hein.
Il s'appelle Adolf en plus.
Ah, il s'appelle Adolf. J'avais pas qu'il s'appelait Adolf. Par
Adolf Reinhardt.
Ouais, j'avais oublié.
Ah, bah oui, bon, Adolf. Alors, ouais, bon, Adolf Reinhardt, je pense que c'était un peu voulu. Il y a qui d'autre dans le gang?
Bah, il y a Donnie Yen qui joue donc. Genre, moi, les noms, faut pas le demander. T'as deux gens qui ont pas de prénom. Il y a le gros avec sa masse et sa meuf qui le suit.
Il y a un mec avec une mitraillette.
Il y a un mec avec une mitraillette avec une côte de maille. Hein.
Et il y a Nissa.
Ouais, le coup.
Ouais, t'as Priest qui est un espèce d'écossais là. Mm.
Ouais, lui, il fait pas long feu.
Non, il fait pas long feu. Et t'as un noir qui est pote avec Nissa, là, le mec qui vient le chercher aussi, Blade.
Ah, lui non plus, il fait pas long
feu. Non, il fait long feu, mais on le voit, mais il sert à rien.
Ah ok.
Ouais, bah c'est un peu le problème. C'est vrai qu'ils ont pas des persos, des personnalités ultra. Tu sais, il y a des fois, il vaut mieux assumer le stéréotype et y aller encore plus dans le perso marqué. Là, ils sont un peu timorés les autres quoi.
C'est vrai. Quand tu fais un Suicide Squad, il faut au moins une scène de 5 minutes avec un flashback pour expliquer d'où ils viennent au début du film.
C'est salvateur. Ouais.
C'est au moins un minimum quoi.
Si on l'a vu. On l'a vu que ça marchait très très bien.
Ouais. Ça marche très bien. parlons de Ron Perlman un petit peu. C'est la première fois qu'on va en parler dans le podcast, je crois.
Ouais, il a jamais fait de Marvel, je pense. Ouais, ni
non,
DC,
voilà. Est-ce que vous aimez bien le bonhomme?
Ah, moi j'aime beaucoup.
Ouais. Oh ouais.
Il est cool, hein. Il a un charisme.
Ouais. Pour le coup, ça c'est Del Toro qui l'a fait venir parce qu'il avait joué dans son premier film.
C'est un de ses acteurs fétiches. Hein,
ouais, il a joué dans Chronos et après il deviendra Hellboy. Et il pensait déjà faire en sorte que ça devienne Hellboy plus tard. C'est-à-dire qu'il a toujours voulu que ce soit Hellboy. Et donc il l'a fait venir parce que bah, il savait qu'Iron Man, il allait trop se marrer. Voilà. C'est une bonne raison pour faire venir un comédien, je trouve.
Oui.
Et il avait fait quoi avant, là?
Oula, bonne question.
Il faisait beaucoup de trucs en costume où on le voyait pas.
Bah, il était dans le Alien de Genet, du coup.
Voilà, dans
ouais,
Alien.
C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. C'est peut-être ça le gros. Mais il a dû faire d'autres trucs. Hein, mais
c'était des enfants perdus aussi, il me semble, de Genet.
Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai qu'en final, c'est marrant, c'est un mec qui a été. Enfin, il est devenu célèbre grâce à des réalisateurs étrangers quoi, à Hollywood.
Et le nom de la rose, c'était avant aussi.
Ah ouais, le nom de la rose.
Ah oui, bah, le nom de la rose, c'était avant. Bah, tu vois, encore un réalisateur étranger. Je trouve ça chelou, quoi. Mec, c'est les meilleurs rôles, c'est que grâce à des étrangers. C'est quand même rare chez les Ricains, quoi.
Et après, il a fait Sons of Anarchy aussi.
Ouais, ouais, ça, c'est vraiment c'est sa dernière partie de carrière, là, où il a réussi à vraiment être...
Il s'est trouvé une série où il peut faire 6-7 saisons et être payé à vie. Voilà. Bien raison.
Ouais, c'est clair.
Et je trouve que Wesley Snipes contre Perlman, ça marche très bien aussi.
Ah ouais, c'est
le
clair.
Duel. Le duel m'a pas plu. Je trouve que toutes les scènes entre les deux étaient vachement, vachement bien. Et c'est le bon point du film, c'est les scènes entre les deux, je trouve.
Ouais, là, je veux dire, alors, c'est clair que les deux personnages fonctionnent très très bien. Et lui, pour le coup, il est génial. Enfin, je veux dire, il joue à donf. En plus, c'est drôle parce qu'il est. Il doit mesurer 20 cm de moins que Wesley Snipes. Et pourtant, Del Toro, il arrive absolument pas à... Enfin, il le filme, t'as l'impression qu'il fait la même. Qu'il est même plus grand et plus baraqué. Mm.
Quoi, il est petit, Ron Perlman.
Ouais, il fait 1m70, un truc comme ça.
Ah ouais.
Ils te le vendent toujours comme un mec d'un 90 minimum, quoi, tu vois.
Non, 1m80 il fait. Mais je veux dire, Wesley Snipes, il est beaucoup plus grand. Il est plus grand. Ouais, et en tout cas, il te le filme comme s'il faisait la même taille ou plus grand, quoi. Et c'est ce qu'il dit dans le documentaire audio. Il dit moi, je sais parfaitement filmer Ron Perlman pour le faire paraître plus baraqué. Ça fait marrer.
C'est comme les gens qui savent filmer Tom Cruise, tu vois.
Tom Cruise, voilà,
il fait toujours une tête de plus que la fille avec qui il est, alors qu'en vrai, pas du tout, quoi.
Mais le challenge est quand même plus grand avec Tom Cruise, parce qu'il est vraiment, vraiment plus petit, quoi.
Donc Blade et le gang arrivent au ralenti. Là encore, ça crie 2002, quoi. Ils vont en boîte de nuit.
Ouais, ils vont dans la maison de la douleur, un truc comme ça. The House of Pain, un truc comme ça. Mm-hmm.
Merde, ils ont chanté quoi, ce groupe, House of Pain?
Alors là,
Ça me dit rien du tout.
Ouais, bah, si tu parles musique.
Attends. C'est un groupe de hip-hop. Jump around, jump around, jump up, jump up to get down. Ok, voilà. Ouais.
Pour ceux qui auront vu My Name is Earl, ça vous parlera.
Putain, My Name is Earl. On est en train de parler de bonnes séries de l'époque, là, entre Sons of Anarchy et My Name is Earl. Il y a une petite scène où Blade, il pose des caméras pas discrètes.
C'est vrai.
Qui serviront quasiment à rien.
En plus, ça sert absolument à rien. Mais il pose genre une petite caméra à sa hauteur, comme ça, au milieu du mur, et il se barre. Ça m'a vraiment fait rire.
Et vous en pensez quoi? C'est le pote de nuit où il se passe des trucs un peu chelous, là?
Oh, ça se fait plaisir, ouais. C'est...
je ne juge jamais ce genre de choses.
Les lames de rasoir et compagnie, là.
Ouais, c'est ça. Hein.
Ah oui, c'est ça, il se roule des pelles avec des lames de rasoir dans la bouche.
C'est compliqué à comprendre, mais...
Bah ouais, en fait, c'est le délire, c'est que ouais, ils prennent leurs pieds en se faisant mal, quoi.
Tu crois que ça existe en vrai, des gens comme ça?
Pain.
Ouais, mais là, c'est des vampires, ils arrivent plus à avoir mal, alors il faut qu'ils aillent vraiment loin pour se faire mal.
Ah ouais, là, ouais, c'est vrai qu'il faut qu'ils aillent... Ah ouais, carrément, c'est de l'écartelage et des trucs comme ça, quoi.
Ah ouais, des trucs bien, bien hardcore.
Donc là, il y a une grosse bagarre dans le nightclub. On apprend que les méchants vampires, donc les Reapers, ils sont super résistants à presque tout, sauf à la lumière du jour. Et ils ont une bouche quand même bien dégueu.
Ouais, ça, la bouche, c'est le ça, grand c'est truc de Del Toro, quoi.
L'instant Del Toro, ouais. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà.
Ouais. Il y en a quelques-uns des instants Del Toro, là, le moment où le mec se fait planter au mur et que, tu sais, que le mec s'arrache du katana et se barre en l'air, là. Enfin, il y a un côté un peu aussi, des petits moments un peu gore, bizarre, monstrueux, comme ça, qui saupoudrent tout le long de cette séquence.
Je le trouve un peu plus gore le premier, moi, perso.
Le premier est plus sanglant, ouais. Celui-là, plus il, sanglant, est plus, voilà. Ouais, il est plus gore, genre pas gore, mais ouais, monstrueux, quoi. Enfin, je sais pas le terme, mais.
Ouais, c'est plus gore.
Tu vois, genre, quand je vois le méchant à la fin qui saigne du verre, là, c'était pas... Enfin...
Non, c'est ça, c'est des trucs monstrueux, c'est pas genre gore, mais tu sais, c'est des petits trucs un peu... C'est du gore un peu rigolo, presque, là. Alors que le premier, il est juste dégueu, quoi. Enfin, il est juste sanglant, avec du sang partout et du dégueu, quoi.
Comment il s'appelle, le chef des junkies, déjà, là?
Nomak.
Nomak. Donc, il y a une bagarre entre Nomak et Blade, que toi, t'as bien aimé, hein, Zoltan, c'est ça que tu disais.
Ouais, et alors, pour le coup, je trouve que ça fait partie de ces batailles. Bah, il le dit aussi, hein, comme d'hab, mais...
Comment il se retrouve d'une boîte de nuit à une église?
Alors ça, c'est... Franchement, c'est pas expliqué. En plus, c'est pas du tout... Enfin, je trouve qu'il y a un problème d'ellipse temporelle à ce moment-là, quoi. Parce que, genre, c'est pas... Enfin, c'est le bordel partout. Et là, il se retrouve là à marcher, et au milieu de l'église, à se fêter contre le gars, à revenir... Tu sais, il ressort du truc, genre, mais il s'est passé quoi là-dedans? Oh, rien. Je me suis frité avec le mec qu'on devait buter. Tu vois. Mais par contre, j'aime bien ce moment où il tombe et il se frite en l'air. C'est vrai que c'est un peu genre le vrai truc de super-héros. Tu sens que là, il a voulu Dragon faire de Ball, temps en temps, il veut faire des, ouais, il veut faire des batailles de super-héros. Quoi. Mais ça, c'est,
bah, plutôt... c'est là que c'est animé, quoi, tu vois, comme il disait. Ouais. C'est peut-être dans ces moments-là. Et aussi, les méchants vampires, s'ils boivent pas assez de sang, ils meurent.
Ouais, mais très
ça le truc aussi.
C'est vraiment des ultra junkies, quoi. Les gars, ils doivent avoir du sang très 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 régulièrement, quoi. Toutes les 3 heures.
On a une bonne scène Del Toro aussi, c'est l'autopsie d'un des Reapers.
Ah bon. Ouais, bah ça c'est son grand plaisir. Ouais.
Pendant Cronperma, l'image du chewing gum en même temps.
Ouais. Vous avez ça, bien aimé. Il kiffe la bio. Hein.
Bah, il aime bien décortiquer ses monstres.
Ouais, il a bien décortiqué ses monstres, c'est clair.
Qu'est-ce qu'il y a, Ron Perlman?
Mais il fait quoi, Ron Perlman? Il a un chewing-gum, c'est ça?
Il mâche du chewing-gum et il fait des bulles.
Ah oui.
En même temps. Bon, Judith, t'es encore avec nous?
Ouais, oui. Non, mais c'est juste, je me dis, comme on parle de Ron Perlman, quand même, enfin, moi, je veux dire, moi, j'ai pas de souci avec lui en tant qu'acteur, au contraire, mais on est d'accord que le personnage, bon, c'est un peu dommage. Enfin, moi, je trouve qu'il est archi dans la caricature. Enfin, ses personnages secondaires... j'ai l'impression d'avoir vu ce personnage 1000 fois, genre qui se fait tellement tacler par le héros au début, puis on sent qu'il va vouloir se rebeller, ça bouillonne et il finit par le faire et finit par finalement se faire défoncer la tronche. On a vu ça 1000 fois, c'est hyper caricatural. J'avais l'impression d'être dans un dessin animé pour enfants un peu, quoi.
C'est carrément le méchant des années 80, le sidekick, enfin non pas le sidekick, comment on appelle ça déjà, le sous-fifre, on va dire, des années 80, qui est un peu le boss, le mini-boss, le boss secondaire du film.
Oui, c'est ça.
Le sbire, c'est le sbire. Ouais.
Ouais, le sbire, voilà, c'est ça. Et...
Oui, qui l'homme fonctionne. Demain, on ne sait pas pourquoi. Enfin, si, on sait pourquoi, mais genre, voilà, Blade, il ne peut pas s'empêcher de l'humilier. L'autre ne supporte pas l'humiliation parce qu'il a envie de montrer qu'il a des couilles, tu vois. Et c'est un peu du sous-emploi de Ron Perlman, quoi.
Bah, je trouve que ça fonctionne. En même temps, Ron Perlman n'était pas encore super connu à l'époque, donc je peux encore comprendre qu'il se tape ce genre de rôle à ce moment-là oui. dans sa carrière. Mais je trouve que l'alchimie entre les deux acteurs fonctionne vachement bien, par contre. Même si on sait exactement quel genre de personnage on a à faire, on sait exactement comment ça va se finir.
Dès la première
juste
scène,
juste le petit voyage jusque-là, les deux acteurs nous le vendent bien, je trouve, perso. Mais c'est vrai que c'est caricatural. Hein. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas à avoir de débat là-dessus, quoi.
Oui, oui. Puis, enfin, cela dit, c'est même pas, comment dire, typique de son personnage à lui, puisque comme je le disais, c'est exactement le cas du personnage de Norman Reedus aussi, pardon. Donc oui, enfin bref, de manière générale, j'ai eu l'impression que le film fonctionnait qu'avec des personnages types comme ça, dont toutes les répliques, tous les mouvements étaient archi prévisibles. Donc bon, ça gâche un peu le plaisir, je trouve.
Ouais, mais bon, quand Ron Perlman il fait un truc badass, tu te dis ah c'est bon. des fois, ça se limite à ça, tu vois, juste ah, Ron Perlman il a fait un truc badass.
Ouais, je peux comprendre.
Donc, j'étais content de le voir parce que c'est vrai que depuis le début du podcast, on n'a jamais parlé de lui. Donc juste des quelques fois, il y a des acteurs et tu te dis putain, on a fait plein de films, mais pas une seule fois on s'est retrouvé à parler d'eux, tu vois. Comme on n'a jamais parlé de Nicolas Cage, par exemple. C'est hallucinant. Depuis
ça arrive, ça arrive.
Bah, on en a parlé un peu dans Superman, mais très peu. Quoi.
Ouais, voilà, on en a parlé un peu dans Superman. Donc là, Ron Perlman, j'étais super content de le voir. Donc là, je l'ai plus vu avec un côté fanboy qu'autre chose dans ce film-là. Quoi. Et toi, Zoltan ?
Bah ouais, je dis, hein, franchement, je suis d'accord avec toi, en fait. Bah, ça fait partie de ces mecs qui, pour le coup, tu leur files ce genre de rôle, ils arrivent tu sens qu'ils kiffent et qu'ils s'éclatent avec, quoi. Donc, tu vois, il y a toujours un petit côté second degré, mais ultra caché pour assumer le truc à fond. Enfin, moi, il m'éclate, quoi. C'est un mec qui a des punchlines, qui a une gueule et qui s'éclate. Donc, à partir de là, je trouve que ça fonctionne. Mais en effet, le rôle en soi, si c'est pas Ron Perlman, je pense que c'est limite de la merde.
C'est de la grosse merde.
Oui, c'est ça. Voilà.
Oui. Vraiment. C'est
une absolue, oui.
Mais heureusement que c'est lui, quoi. Heureusement. Parce que ouais. C'est sûr que là...
Il ressemble à un Maine Coon.
C'est quoi
oui, c'est
un chat. Il y a un chat, c'est la race du chat, c'est le Maine Coon. Et ils ont la gueule de Ron Perlman de quand il faisait la série télé La Belle et la Bête. De George Martin, d'ailleurs, de George R. R. Martin. Voilà, j'étais obligé de le dire. Parlons de l'histoire d'amour, point d'interrogation du film.
Il y a des scènes coupées où ils couchent ensemble, normalement.
Entre Nyssa et Blade, donc ouais. Nyssa qui est un peu la princesse vampire.
C'est ça, ouais.
Qui ne sert à rien.
Elle ne sert absolument à rien du film. Tu vois, on se plaignait un petit peu du premier Love Interest, mais à côté,
là, c'est pire,
largement
ouais.
meilleur.
C'est bien pire et c'est vraiment dommage.
En plus, c'était quel intérêt, franchement, de faire comme si la première nana n'avait jamais existé et la balayer sous le tapis pour nous foutre ça à la place, quoi. Enfin...
Ils n'en parlent pas du tout de la première.
Non,
mais alors ça... Enfin, je veux dire, l'intro entre la voix off et tout, enfin, à la limite, on en reparlera plus tout à l'heure, mais enfin, il y a absolument rien qui va dans ce début de film, c'est terrible. Et donc oui, non, effectivement, ils ont fait comme si le personnage n'existait pas. Puis comme on le disait la semaine dernière sur le premier épisode, c'est-à-dire que l'intrigue qui naissait autour de la recherche du sérum et tout, bah c'est pareil, là ça n'a jamais existé. Enfin, c'est trop bizarre.
Ah oui, c'est vrai ça, tiens.
Ah bah ouais.
Tout le sérum, on le voit se piquer une fois juste pour que elle le voit. La seule raison. Sinon, on le revoit pas utiliser une seule fois le sérum pendant tout le film, quoi. Bon, ils ont une mission dans les égouts. Ça dure pas mal de temps dans les égouts, hein, quand même.
Ouais, ouais, ouais. Là, c'est leur gros décor, quoi. Là, ils ont construit, un espèce de 8 d'égouts. Ils ont pas arrêté d'air exprès. En fait, c'est un film, quand ils t'expliquent, que c'est un film assez fauché, hein. Et donc, genre là, le décor, ils ont qu'une petite partie. Ils ont dû le redécorer des centaines de fois pour faire tous les plans différents. Les figurants, en fait, ils avaient qu'un seul costume de Reaper qui pouvait ouvrir la bouche, en vrai. Et donc c'est pour ça que si vous faites gaffe, en fait tous les mecs ouvrent la bouche, ils sont déguisés après, ils ont genre des bandelettes sur la gueule ou un bonnet ou parce que c'est la même marionnette qu'ils ont dû utiliser à chaque fois. Et à un moment tu finis par te rendre compte parce que il y a le premier qui ouvre la bouche en animatronique, c'est celui dans le petit gars dans la cuisine qui bouffe le gars qui a l'espèce de massue là, de marteau, donc que tu vois bien, donc il plante ses griffes dans le dos là, c'est assez horrible. Et après, bah, en fait, à chaque fois que tu revois un mec ouvrir la bouche et interagir avec un comédien, bah, c'est cette marionnette-là. Et pareil, en fait, ils n'avaient que 6 mecs maquillés en Reaper, et tout le reste, c'est des figurants juste chauves. Tu vois, parce qu'ils n'avaient vraiment pas de thunes, et donc ils n'ont pas arrêté de réexploiter les mecs, de les mettre dans différents plans. Tu sens qu'il s'est fait chier avec le fait de pas avoir le budget qui. Enfin, il s'est débrouillé qu'un petit budget, apparemment, mais bon.
Ouais, c'est pas pour rien qu'ils sont tous chauves, quoi. C'est vraiment comme
ouais,
ça.
Ouais, exactement.
Moins, c'est moins de boulot,
en fait, voilà, c'est exactement. Il y a des vrais choix comme ça qui ont été faits pour. Parce qu'ils n'avaient pas la thune pour faire vraiment bien, quoi.
Donc là, il y a l'instant zombie, justement, où le mec qui s'est fait mordre et qui avait ses griffes dans le dos, comme tu le disais, se transforme et il tue sa copine au passage. Non, elle ouvre le truc et ils sont tous les deux.
Et c'est ça.
Ils sont tous les deux dans le soleil.
Brûlés par le soleil.
Et c'est là que vraiment, là, ça commence vraiment à faire penser à un film de zombies. Et moi, je ne suis pas trop fan des films de zombies, donc ça n'a jamais été mon truc. Désolé Norman Reedus, mais ta série, pour moi, c'est de la grosse merde. Quoi.
Ouais, j'aime bien les films de zombies, moi.
J'ai jamais accroché, ouais, je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui. Je préfère largement les films de vampires, tu vois.
Ouais. Ah oui. Oui, mais en zombie, enfin, tu me diras, en vampire aussi, il y a le pire comme le meilleur, quoi.
Oui,
après,
sûr,
c'est vrai que moi, le mythe, la figure du zombie me botte nettement moins, mais bon.
Bon, c'est moins sexy qu'un vampire, hein, un zombie, quoi.
Enfin, là, les vampires de Blade sont pas méga sexy, je t'avoue. Mais...
Non, c'est vrai.
Non,
Blade est sexy, mais... Ouais, Nissa, donc elle sert à rien, voilà. C'est tout ce qu'il y a à dire, hein, sur elle. Elle est là,
oh,
elle existe.
Ouais,
elle existe. C'est qui cette actrice? Elle est connue, même pas, je crois pas.
Hein. C'est une actrice franco-colombienne, il me semble, ou quelque chose comme
ça. Cocorico.
Mm. Ah ouais? Eh ben.
Cocaïne Rico, si elle est franco-colombienne, pardon.
Oh,
ouais. Franco-chilienne, pardon. Franco-chilienne.
Ah non, autant finalement,
pour...
ce sera.
Autant pour moi.
C'est quoi la spécialité du Chili? On ne sait même pas. Hein.
Le Chili con carne.
Ouais, évidemment.
J'ai gagné un point.
Je pense, ouais. Vous êtes un tout petit peu plus à droite sur l'échiquier. Bravo, Sofiane.
Il y a Blade qui donne son sang à Nissa, donc. Et c'est la même scène que dans le premier. Sauf qu'elle est beaucoup moins sexuelle. Hein. Là, il y a pas, c'est un plan fixe avec la fille qui bouffe. Tu sens que Del Toro, il a pas essayé de rendre le truc avec.
Ouais, pourtant, lui, il l'a qualifié.
T'arrêtes pas.
Il dit que c'est une scène de sexe oral, quoi.
Ah, ok.
Ah oui.
Ouais, mais bon, en effet, il y a zéro érotisme là. Enfin, c'est
autant. Oui, devrait pouvoir y avoir un juste milieu entre l'espèce de porno cheap du premier et ce truc insipide.
Celle-là, c'est ouais, j'ai posé la caméra et j'ai dit action et je suis parti tout doucement. Je suis allé me cacher parce que c'est pas très bien que je regarde ça à mon âge.
Ouais, un peu. Ouais. Mais j'aime bien les armes, moi, qu'ils ont les espèces de bombes de lumière là en forme de croix un peu. Enfin.
En forme de Holy Hand Grenade,
ouais,
de Sacré Graal, quoi. Ouais,
exactement, c'est ça. Ouais. Et ça, je trouve ça plutôt cool comme petit truc.
J'ai trop pensé à Sacré Graal quand j'ai vu le truc, quoi. Je fais quoi? Ils ont vraiment été faire des Holy Hand Grenade, quoi. C'est génial.
Bah après, ça, c'est vrai que, enfin, moi, je suis d'accord pour dire que les détails, justement, là où on retrouve peut-être aussi le plus Del Toro, hein, mais c'est dans certains aspects des décors et les accessoires qui sont inventifs, qui ont une esthétique sympa. Ça, je trouve que c'est un bon aspect du film. Hein, si je dois pouvoir le racheter par un côté, ce serait celui-là.
Ouais, genre même les flingues qui ont des lames avec lesquelles ils peuvent foutre des tatanes.
Ouais.
C'est des petits trucs, ils s'attardent pas dessus en plus. C'est ça qui est pas mal, c'est qu'il n'y a pas genre la scène où ils te montrent 25 gadgets. Bon, les Holy Grenades, il y a la scène où ils les créent quand même. Mais globalement, l'univers, il est riche, quoi. C'est ça qui est fort avec Del Toro, c'est qu'il enrichit vraiment son univers.
Moi, c'est ce qui me plaît avec ce film, c'est qu'il est plus généreux là-dessus, justement. Il est du coup plus plaisant que le premier, qui est un peu plus. Enfin, moins équilibré, je trouve, justement, là-dedans.
Ouais, moi, je suis d'accord. Je trouve qu'il est plus primaire, celui-là. Enfin, je veux dire, en termes de scénar et tout ça. Mais il y a un côté série B assumé. Et dans les séries B, en fait, je trouve que c'est une série B assez riche. Et ce qui est pas, voilà, c'est pour ça qu'il est dans une catégorie qui est un peu étrange. Le premier, il avait un peu le cul entre deux chaises et surtout il se perdait au milieu, quoi.
Et tu sens que Del Toro, il expérimente encore un peu, quoi. Il tâtonne encore un peu, quoi.
Il fait moins ce film de super-héros celui-là que le premier, d'ailleurs.
Ouais, c'est
je
vrai.
Trouve. Le premier avait clairement le méchant final qui va détruire le monde si on le tue, blablabla. Là, c'est plus une histoire de famille avec bon, il y a l'histoire du virus, etc. Mais je trouve que ça fait un peu moins super-héros quand même celui-là que le premier.
Ouais, attends, on n'a pas parlé de la meilleure blague du film d'ailleurs, j'ai oublié.
Vas-y.
Il dit, quand il y a l'avocat qui arrive avec Blade, il dit vous êtes humain? Il fait non, je suis avocat. voilà. Ça, c'est Del Toro, c'est la seule blague qu'il a rajoutée dans le script, il a dit.
le salaud. Son avocat, il devait être dégoûté. Quoi. Donc, Ron Perlman et une petite armée embarquent Blade.
Ouais.
On apprend que les Reapers ont donc été créés par Damaskinos.
Ouais, c'est son fils en fait. Quoi.
Il veut créer une race pure immunisée à l'argent et au soleil. Ok, cool. Il y a une histoire d'eugénisme un peu dans le tas.
Moi, il y a un truc qui m'a choqué justement en termes de décor, par contre, dans tous ces passages-là, c'est les CRS vampires. Là,
ben, c'est des humains en fait. C'est pas des CRS.
Ah, c'est des humains. Okay. Hein. Moi, j'avais mal compris alors.
Arrête, c'est mon pire cauchemar.
Il faut faire des manifs de jour. Quoi.
Non, plus que ça. Quoi.
Mais si non, c'est des gars. Okay, ils disent, ouais, c'est des gardes humains, ça, voilà. Mais après, c'est pas expliqué pas plus que ça. Hein. C'est, en fait, ils le disent la première fois quand ils débarquent dans le local, enfin, quand ils descendent de l'hélicoptère, ils disent Blade les regarde, il dit des humains, c'est étrange. Et puis voilà.
Ouais, parce que moi je me disais des vampires, enfin autant qu'ils profitent de leur capacité plutôt que se mettre sous une armure avec un
casque. Ouais, c'est clair.
Du
ouais.
coup, je comprends, mais ok.
Bah d'ailleurs, pareil, ça, ils avaient que 10 costumes, donc à chaque fois qu'il y en a ça beaucoup, sent, c'est des réutilisations. Enfin.
Donc tout le monde fait la même taille, quoi. Tu vois.
Ouais.
Donc on apprend que Norman était en fait un familier et Blade le fait exploser avec la petite bombe qu'il avait mise sur Ron Perlman. Qui est encore un petit gadget assez marrant où la télécommande est largement plus grosse que la bombe elle-même. ça me fait rire. Il y a une énorme télécommande, quoi, juste pour. Est-ce que vous l'aviez vu venir, le twist sur Norman Reedus? Parce que moi, je dois avouer que je ne l'ai pas vu venir et j'ai un peu honte.
Bah, c'est tellement sorti de nulle part qu'il n'y a pas de raison de le
voir.
Oui,
voilà, quoi. En fait, ça sort de nulle part d'un coup. Je fais, ah, ok, bon.
Tu vois, c'est vraiment. Enfin, je veux dire, là, à ce niveau-là, ils auraient pu prendre n'importe quel personnage, te dire, ah, bah, en fait, c'est le traître.
C'est ça. J'avais oublié ce qu'il existait en plus dans le film. Quoi.
Ouais, c'est surtout ça, en fait.
Ouais.
Moi, je me souvenais qu'il y avait un délire autour de lui, mais je me souvenais plus que c'était ça. Mais je l'attendais, du coup, mais je savais plus ce que c'était.
Mais ils nous font ça dans tous les films. Hein. Et un coup, il y a, ah, ta mère, elle est en vie. En fait, c'était Norman le méchant. Je me demande ce que ça va être dans le 3.
Bon,
il y a Deadpool. Bien,
Ouais, bah, oui, on verra. Mais bon, en tout cas, il va bien se faire éclater, le pauvre Norman. En ouais. plus, ça n'a aucun sens le délire du « je savais qu'en fait, tu m'avais trahi oui. ». Ah bon.
Pourquoi il tue parole Perlman à ce moment-là aussi, quand il a l'occasion de le faire, quoi.
Ça n'a aucun sens, quoi. C'est vraiment comment faire que ton héros reste badass, mais bon, il s'est quand même un peu fait plus une bananée, quoi.
Il se fait torturer, Blade, encore une fois, d'une manière très dégueulasse, hein, avec, cool, avec des sortes de pics qui lui passent. Ouais, c'est bien dégueu. Mais c'est pas grave, puisqu'il va plonger dans le sang après, et orgie dans le sang, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit.
Et là, il y a quand même le plan qui va être réutilisé dans beaucoup de films de super-héros par la suite, notamment dans X-Men Days of the Future Past, ou non, X-Men 2, où il y a Wolverine qui sort du truc et qui... T'as exactement le même plan, quoi. Genre là où Blade
qui sort de l'eau en gueulant.
Ouais. Enfin, le plan un peu iconique, quoi. Bah, là,
ouais,
c'est
le plan,
quoi.
De Wolverine. Ouais, okay.
Ouais, même plan, quoi.
Donc, ouais, réutilisé dans plein de films de super-héros, en effet.
Bah, ouais.
Comme X-Men 2.
Comme X-Men 2. Non, mais non, dans la saga X-Men, ce plan-là, il revient déjà.
Il revient déjà
3-4 fois.
Ah, c'est le plan Wolverine quand tu y penses, en fait. C'est lui, voilà. Qui sort de l'eau et qui. Ah! C'est plutôt cool, il se fait une armée à lui tout seul, c'est plutôt cool, j'ai marqué, voilà.
Ouais, là, il faut savoir que sur cette séquence, il y a Tarantino qui l'a appelé, après avoir vu la séquence, en disant « Comment t'as fait pour pas salir le verre durant le tournage ?» Et Del Toro lui dit « Mais pourquoi tu me poses cette question ?»« Oh, je suis en train de préparer une baston sur un sol de verre, j'aimerais bien savoir comment, pour pas me galérer. » Et en fait, il préparait Kill Bill, évidemment, la séquence de fin de Kill Bill.
Ah oui, en effet, oui. Et on a le plan lunettes. Qui revient dans tous les films. Il n'est pas aussi
cool
que dans le premier.
Si, c'est vrai.
Ah ouais, pourtant, ouais. Il est marquant, celui-là, en plus.
C'est Whistler qui fait « Attrape tes lunettes », il attrape ses lunettes, il le met, il les met, voilà.
Et en plus, alors ce plan était tourné à l'envers, pour info. C'est-à-dire qu'il avait les lunettes dans la main, et il a tiré un fil pour foutre les lunettes bien loin, et après, ils l'ont mis dans l'autre sens, et ça a donné l'impression que Blade attrape les lunettes en vol.
La magie du cinéma. Quoi.
Ah, les effets spéciaux, par moment, c'est con comme bonjour. Hein.
J'espère c'est comme... que dans le 3, il va les attraper dans son dos ou un truc comme ça.
On verra, mais le 3, je crois que c'est vraiment une catastrophe. Moi, le 3, en fait, je crois que je l'ai jamais vu en entier. Donc, c'est vous dire à quel point j'ai hâte de le redécouvrir.
Oui, quand on voit que tu peux voir le 2 plusieurs fois en différentes versions, etc., si t'as pas réussi à le voir 3 en entier, je suis curieuse.
Ah ouais,
c'est immonde. C'est immonde.
Compliqué.
Damaskinos se fait bouffer par son fils, qui bouffe aussi Nyssa. Et là, on a un combat où il n'y a que des scènes en CGI dégueu, quoi. Je suis désolé, mais là, dans ce combat, c'est énormément de scènes en CGI pas beau, quoi.
Ouais, mais c'est classe, mec. Il y a des plans où tu... Enfin, moi, j'aime bien quand il y a de la liberté créative comme ça. Moi, c'est ce que je veux.
Même si c'est moche.
Ah ouais, même quand c'est moche. Ouais. Même quand c'est comme beau comme dans Catwoman, ça me plaît. Ouais.
Putain, Zoltan.
C'est marrant parce qu'en plus, moi, de Catwoman, je l'ai jamais vu. Je ne connais justement que la vidéo de Zoltan et des images que j'y trouve. Bah, je trouve ça étonnant d'entendre ce discours sur le film de sa part.
Bah, écoute, je ne dérange pas d'être.
Non, mais c'est la seule personne au monde avec Pitoff à dire du bien des effets spéciaux de Catwoman. Et encore, je pense que Pitoff, il serait capable de dire ouais, je suis désolé, j'étais défoncé le jour-là, j'ai fait n'importe quoi.
Mais non, c'est pas lui qui l'a fait, c'est la boîte qui a fait Spider-Man 2. Et... Oh, respect ouais, quand même.
Mais c'est vrai que c'est lui qui faisait les effets spéciaux à l'origine.
Bah ouais, boulot, c'est là-dedans, ouais.
Ouais. Bah, je les trouve moches, je suis désolé.
Non, moi je les trouve moins moches. En fait, c'est pas sur Catwoman, mon point, c'est de dire que c'est les séquences les mieux réalisées du film. Donc, c'est surtout ça, en fait.
Ah oui, oui, oui. Bon, si
on... Ah oui, c'est le moins pire.
Ouais. Et après, je trouve qu'elles sont... elles ont vieilli et tout, mais je trouve que le découpage des séquences se tient vraiment bien, quoi. Et voilà, c'est Catwoman, quoi. Je ne veux pas non plus dire que c'est génial.
Chaque épisode, il fait son monologue, à chaque épisode. Ah, nous, oui, on le laisse faire à chaque fois.
Ah ouais, à chaque fois.
Oui, Zoltan.
T'as le pouvoir du montage. C'est... J'invoque le pouvoir de couper la parole au mec qui dit toujours la même chose.
Au final, on t'entendrait pas, Zoltan.
C'est vrai.
Donc, Nyssa, mordu, décide de voir le soleil et de mourir. C'est censé être triste, mais on n'en a rien à taper. on s'en tamponne, mais totalement, quoi. On n'en a rien à foutre.
Encore une fois, c'est hyper plat, quoi.
Et je vais vous le dire, on me montre ce film comme, ouais, c'est Del Toro, tu vas voir, c'est le meilleur Blade et tout. Bah, ok. C'est pas un mauvais film, hein, je suis pas en train de dire ça. C'est pas largement plus mauvais que le premier ou quoi que ce soit. C'est juste que ils font des meilleurs combats, etc. Mais le scénario, il tient sur un ticket de métro, quoi. Le truc, c'est, il est vide, le film, en fait, quoi. Au niveau scénar, au niveau, il y a même pas Blade qui dit une phrase marrante dans le film.
Si, une fois. On sort une ou deux quand même.
Ouais, c'est rapide.
Ah, hein. Je te trouve dur là-dessus.
Rapide. Mais je l'ai dit, moi, je trouve, c'est vrai qu'il est quand même beaucoup moins saillant comme personnage que dans le premier. Hein.
Ouais.
On sent que justement, Del Toro, il s'éclate un peu sur les...
Les combats et tout, mais pas sur le personnage, quoi.
Il passe sur les méchants. Rôle, voilà.
Ouais, sur les monstres, ouais, c'est vrai. Ouais.
Et je trouve qu'il y a tout le délire du retcon et tout. Je dis, ok, mais à ce moment-là, fais quelque chose avec. À quoi il sert Whistler si tu le ramènes au final? Il sert à rien. Enfin, il apporte plus rien au film.
Ah, là. C'est un figure paternelle, tu comprends, Sofiane. Ouais, justement, il vient sauver...
La figure paternelle est censée mourir, c'est ça le but de la figure paternelle.
Et bah là, non.
C'est pour Del Toro, enfin voilà quoi. C'est...
La figure paternelle, elle vient sauver Blade quand il en a besoin.
Et puis comme ça, il peut aussi être dans le 3, c'est plus simple.
Aussi.
Tiens, en parlant de Whistler, est-ce que vous pensez qu'il a laissé Norman Reedus se faire attaquer parce qu'il savait que c'était un méchant?
Non mais franchement, aucune idée, ce truc est comme Norman Reedus, ça a aucun putain de sens.
Maintenant que j'y pense. Bon, on est à la fin du film, hein, vu que Blade y tue un des vampires du début, là, mais...
Oui, il y a ce running.
Et le film se finit comme ça, donc bon, bah, moi, j'ai plus ou moins dit ce que je pensais. Mais attention, je trouve les combats largement mieux filmés. En fait, pour moi, le Blade parfait, ce serait un mélange du 1 et du 2. Tu vois ?
Bah oui, je comprends. Enfin, la réal du 1, du 2, ou en tout cas, l'esthétique.
Les combats, 2, les trucs, le style.
Avec le
garde Ron Perlman aussi, parce que voilà.
Et l'univers du 1, quoi. Enfin, l'univers, voilà, l'histoire, et un peu l'histoire du 1. Ouais.
Le personnage féminin est pas génial dans le 1, mais est quand même plus intéressant que Nyssa. Ouais, un peu déçu parce que je m'attendais à mieux, quoi. Je m'attendais à ce que ce soit aussi bien que Hellboy 2, par exemple, tu vois, ou un truc dans le genre.
Ah ouais, non, Hellboy 2, voilà. Il s'est vraiment fait plus plaisir. Mais
voilà,
l'inventivité, elle est vraiment au-delà, quoi.
Tu vois, je m'attendais plus à un truc dans ce genre. Je pensais que ça allait être son Hellboy 2, mais pour Blade, tu vois. Et j'étais un petit peu déçu. Donc, ouais, je pense que le premier est mon préféré, mais bon, les deux sont... C'est kiff-kiff, quoi. Il n'y a pas... on verra si le 3, peut-être, va passer devant.
On verra.
On verra, hein. Moi, je pense. Je lui laisse beaucoup de chance. Je lui laisse sa chance, en tout cas. Judith, t'en as pensé quoi de Blade 2?
Bon, alors j'en profite pour m'apesantir sur l'introduction. On n'en a pas assez parlé, je trouve, parce que cette voix off, quand même, c'est terrible. Enfin, je veux dire, déjà, la voix off, en général, c'est quand même... souvent, ça cache la misère. Là, mais c'est, ça cache la misère, mais puissance 1000.
C'est la séquence.
Et en plus, ça raconte tout un film. En 30 secondes de voix off, ils essaient de nous faire passer tout un film qu'ils auraient pu réaliser à la place de celui-là. Donc, c'est-à-dire... le pseudo-papa de Blade qui devient un vampire, enfin je me rappelle même plus l'histoire qu'il raconte, je crois que c'est ça, et Blade il le chasse pour le faire redevenir gentil ou je sais pas quoi,
non, pour le buter à la base, hein,
pour le buter, ouais, et en fait il raconte, mais en plus on s'en fout, je veux dire, ça n'a aucune incidence,
c'est vrai que ça revient même pas dans le truc quoi.
Mais oui, ça n'a aucune incidence sur le scénario qu'on va nous montrer, ça sert juste à faire bah voilà, à balayer sous le tapis tout ce qu'ils avaient mis en place dans le premier. C'est, enfin, je veux dire, à partir du moment où le film est a commencé là-dessus, je me suis dit, oh, allez, c'est bon. Enfin, franchement, ça m'a trop vénère.
Et non, mais c'est con, c'est horrible, les films qui te vendent un meilleur film que ce qui te font.
Oui,
là,
en plus!
C'est tellement horrible. C'est que le film, tu te dis, ah putain, il va chasser son mentor, ça va être un duel épique et tout. En fait, que dalle, quoi.
Mais oui, en plus, au départ, quand la voix off commence, tu dis, ok, alors, ok, c'est ça que je vais voir. Et 10 secondes plus tard, tu dis, ah non, ok, donc cette histoire est finie, d'accord, donc on part sur autre chose, pourquoi ? Enfin, disons que ça, c'est la pire partie du film, mais moi, ça a un peu rayonné sur mon appréciation du film en général, on va dire, et en plus de ce que je disais, voilà, sur le fait que je trouve qu'il n'y a que des scènes d'action que je trouve pas assez sympa pour que moi, ça me fasse apprécier le film seulement à travers ces scènes d'action, là, moi, j'ai eu du mal, hein. Autant le premier, j'ai trouvé fun, autant celui-là, bon, voilà.
Moi, j'avoue que je préfère le 2 parce que, comme je dis, pour moi, c'est une série B de luxe, ce qui est pas mal. Là où le 1 est un moyen bon film d'origine story de super-héros, quoi. Mais après, le 1, je trouve qu'il se redécouvre avec beaucoup de plaisir, n'empêche, parce que l'univers est quand même vraiment pas mal et les persos fonctionnent, quoi. Là où, en effet, dans le 2, c'est pas pour les persos que je regarde, quoi. C'est du cabotinage ou c'est des trucs primaires. Mais j'aime bien le 2, je trouve qu'il y a, il y a pas mal de modes. En fait, c'est un film qui m'imprime un peu plus la rétine que le 1. Et c'est quand même pas rien au Cinoche d'avoir des plans qui te marquent et des esthétiques qui te parlent. Et c'est quelque chose que moi, Del Toro, arrive à faire, mine de rien. Même si j'ai un peu craché dessus au début d'épisode, je trouve qu'esthétiquement, ça reste quand même un mec qui te crée des vraies images de cinéma, quoi.
Du coup, je suis celui qui aime le plus ce film, je crois. Hein.
Bah ouais, écoute, tu vas pouvoir avoir le droit de...
Comment oses-tu, Maxime ?
Ouais, bah, comment oui, oses-tu, non, moi j'aime vraiment bien cette suite, j'y suis attaché. Enfin, je sais pas, je trouve qu'elle a un côté peut-être un peu plus décérébré qui peut être un peu gênant en termes de scénar et tout, mais moi je le trouve vraiment jouissif sur plein d'aspects en termes de. Ouais, ça, il a une générosité un peu simplette, moi qui me fait bien marrer. Enfin, je me suis marré devant le film, il y a des répliques vraiment débiles, mais qui m'ont fait marrer, alors que ouais, c'est vrai qu'en termes de dialogue, c'est pas fou, mais je sais pas, dans le contexte où je l'ai maté, ça m'a plu et j'ai bien aimé le revoir. Et puis tout le côté. Je trouve qu'il expérimente Del Toro sur ce film-là. Ils ont mis, je pense que Zoltan, tu as dû le voir dans les bonus, mais ils ont créé une caméra spécialement pour certains plans. Enfin, il avait vraiment envie d'essayer des trucs, même si ça reste un film de franchise. Donc Del Toro, il n'est pas 100% libre, moi, comparé à ce que j'aime de lui, mais c'est vrai que...
Ouais, il était plutôt tranquille, hein, ouais. Franchement. Bah, non, mais j'ai pas vu l'histoire de la caméra, là. J'ai pas vu l'histoire de la caméra, pour le coup.
Bah, la caméra, justement, sur le plan où il saute...
Ah, tu veux dire ouais, le plan du début là où il... Ah bah, j'écoute, j'ai pas vu, mais j'ai pas vu tous les bonus et je regrette un peu de pas avoir eu le temps parce que franchement, c'est tellement généreux comme Blu-ray que ça vaut le coup de vraiment se plonger dedans, quoi.
Je repense à Blake qui pose des caméras tout de suite de manière super discrète et ça me fait rire.
Mais tu vois, c'est ce genre de.
Moi, mais elle est bien cette séquence à la de nuit où t'as. T'as Ron Perlman, mais par contre, après ça, il y a la séquence où Ron Perlman le pointe en disant ça serait tellement facile. Et après t'as son pote à côté qui lui pointe le bide et qui dit lui aussi, pour lui aussi. Il a
cette scène, j'ai bien aimé. C'est pour ça que je disais que, en gros, le film pour moi repose sur ces deux-là, quoi. Tu vois, sur ces deux personnages-là. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Et en plus, bon, Perlman, c'est plus ou moins une caricature. Blade, c'est une caricature qui pourrait être vue comme le cow-boy solitaire, le samouraï solitaire. Enfin, tu sais, ça a déjà été fait un milliard de fois aussi.
Bah, c'est le Ronin un peu. Non, c'est pas
ouais,
ça,
voilà, le Ronin, le samouraï rejeté qui a plus de patrie.
Ouais, c'est ça. Voilà. Bah, ouais. Les gens dans le Discord avaient pas mal réagi au fait qu'on avait dit que ce personnage était un peu nouveau par Blade, le côté mi-vampire, mi-humain. Mais en fait, ouais, c'est surtout dans je sais plus quel manga japonais ou animé japonais que ça avait existé avant.
Bah justement, rejoignez-nous sur le Discord.
Pour corriger toutes les conneries qu'on dit.
On est déjà 200. Pour corriger toutes les conneries qu'on dit et puis même pour discuter avec la communauté, c'est super sympa. De temps en temps, on fait des petits chats vocaux. Max et Zoltan sont là. Voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Sur le Patreon, on va faire la Avengers versus Justice League. C'est ça qu'on va faire le prochain ?
Ah oui, c'est celui-là, ok, d'accord.
Voilà, c'est fini les votes ?
Ça va être ça. Il reste quelques jours, je crois. Ouais. Et c'est bien parti. Et donc, c'est cool, voilà. On a fait le tour. Personne n'a rien à.
Moi, j'avais noté une blague, juste sur le film, pour finir, j'avais noté une vanne sur un féminicide vraiment pas ouf en 2020. Là, quand tu la regardes, ça, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais...
Ah, la meuf qui se fait bouffer en deux par deux mecs, non ?
Non, la vanne, il y a une vanne que sort Ron Perlman sur « Comme mon papa a dit avant de tuer sa maman
». Ah oui, c'est vrai.
Quand on veut que les choses soient bien faites, il faut les faire soi-même. Ça m'a fait un peu cringer, mais voilà. J'avais noté ça, c'était pas fou du tout. Quoi.
Bon, allez, vampire,
point négatif sur connerie, le film, de ma part.
Bon, moi, sur cette note... À la prochaine, tout le monde.
Ciao.
Salut.
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 flesh and mind of my mind. To overcome or war won't survive. My image is reflecting the enemy's eye, and his image is reflecting mine at the same time. I against I. Flesh and mind, flesh and mind of my mind. To overcome or war won't survive. My image is reflecting the enemy's eyes, and his image is reflecting mine. Survive, survive, survive.